Alors moi, c'est Adrien Le Faller et un de mes travaux, c'est d'être photographe de paysage. Donc j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour ça et de voir beaucoup de belles choses, mais l'endroit et l'expérience la plus fabuleuse que j'ai jamais vécue, c'est dans un parc protégé en Indonésie qui s'appelle Bromo et qui est un ensemble de volcans de sable noir et très brillant.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Adrien nous raconte l'Indonésie. Avec lui, on a parlé de Zelda, de geisha et de la poursuite d'un idéal.
À travers le monde. Donc, à ce moment-là, on est avec ma femme en train de voyager à travers l'Asie. On venait de passer 6 mois au Japon. On avait fait une petite escale à Hong Kong. Ensuite, on a traversé les Philippines. Et on se retrouve enfin en Indonésie. On a l'impression d'avoir vu déjà pas mal de choses. Moi, je suis plutôt content de mes photos jusque-là. Et puis, on entend parler quand même d'un endroit qui a l'air vraiment spécial, qui est un peu en hauteur, donc où il fait un peu frais, et ça nous plaît plutôt bien, parce que globalement, ça fait quelques mois qu'on a très chaud. Et donc cet endroit, c'est Bromo, un de leurs plus grands parcs nationaux, en tout cas un de leurs plus connus, qui est une sorte de grand désert, donc de ce sable noir très brillant qui est en fait de la roche volcanique pulvérisée. Et donc on prend plusieurs bus, voitures, on voyage avec des poules, je crois, pour arriver en haut d'une grande butte. On arrive assez tard le soir, d'autant plus que le soleil se couche très tôt là-bas, donc on arrive par nuit noire, on voit pas grand-chose. C'est une ambiance très différente du reste de l'Indonésie, en tout cas de ce qu'on avait fait, parce que comme on est en altitude, on sent qu'il y a cette culture d'altitude un peu. C'est-à-dire que les vêtements sont pas du tout les mêmes, ils sont habillés plus chauds, ils ont des bonnets, tout ça. Donc c'est assez rigolo. Et moi je sais que pour aller prendre des photos, j'ai vraiment envie de voir le lever du soleil. D'une manière générale, quand on va dans un endroit qui est assez beau, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève 2 voire 3 heures avant le lever du soleil, histoire d'arriver bien en avance et d'avoir vraiment une super lumière. Donc on mange rapidement, je pense qu'on se couche, vraiment tôt, on doit se coucher vers 21 h, quelque chose comme ça. Et à 2 h du matin, on se lève, c'est encore nuit noire comme pas possible. On a repéré sur le GPS un petit chemin pour arriver en haut du volcan principal, qui est donc le volcan de Bromo. Et l'idée donc, c'est de traverser le désert pendant la nuit, de monter en haut du volcan et normalement d'y arriver, disons 20 minutes avant le lever du soleil, histoire de pouvoir me préparer. Donc on descend le chemin et puis là en fait on se rend compte qu'il y a un brouillard super épais quoi. C'est-à-dire qu'on a tous les deux des lampes torches super puissantes et à la puissance maximum, nos lampes ne nous permettent pas de voir à plus de, je sais pas, 1,5 m, 2 m l'un de l'autre quoi. Donc avec le GPS, on avance dans une direction qui nous paraît plus ou moins être la bonne. À nos pieds, bah, c'est juste du sable, et vraiment, on voit rien devant nous, quoi. C'est pas un brouillard statique, c'est un brouillard assez mouvant, donc il y a des moments où on commence à voir un peu plus. De temps en temps, même, on est dans une sorte de poche où on voit plutôt bien sur 10 mètres. Et on continue à avancer. Il fait encore vraiment nuit noire, on voit rien du tout. Et là, tout d'un coup, il y a une gigantesque étoile filante, une sorte de, je veux dire, une météorite, mais c'est vraiment quelque chose qui traverse le ciel en deux et qui fait une lumière comme en plein jour, quoi. Une sorte de grand flash à 2 h 30 du matin. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le brouillard et ça nous permet de voir devant nous le volcan et une sorte de grand temple, hindouiste très vieux comme on en voit un peu en Indonésie. Donc déjà, c'est complètement dingue. Moi, c'est la première fois que je vois vraiment une étoile filante. Et c'est un peu kitsch à ce moment-là, mais je me dis, ok, je crois que je vais faire un vœu, parce qu'elle est vraiment ouf, celle-là. Je vais faire le vœu que aujourd'hui, je prenne vraiment les photos les plus dingues que j'ai jamais prises de ma vie. On continue comme ça, on se retrouve donc au milieu de ces ruines, un peu par hasard, parce qu'on est à nouveau dans le brouillard, et donc on marche dans le rien, et puis tout d'un coup, on se retrouve dans des vieilles ruines qui ressembleraient à un vieux niveau de Zelda, enfin c'est assez dingue. Et finalement, on arrive au pied de ce volcan, on gravit, puis on regarde l'heure, et finalement, on y est un peu plus tôt que prévu. Il doit être 3h du matin, donc on a encore une bonne heure, voire une bonne heure et demie avant le lever du soleil. Puis on se les caille surtout. On doit être à 2000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. On est habillé plus chaudement que d'habitude, mais pas tant que ça. Heureusement, je me balade toujours avec nos petits draps de voyage, là, des petits draps de soie qui prennent peu de place, mais qui réchauffent pas mal. Donc une fois arrivé en haut du volcan, on s'emmitoufle dans ses draps et on regarde sur mon téléphone la fin d'un épisode de Top Chef qu'on avait regardé la veille, parce que ça fait 7 mois qu'on est en Asie et qu'on mange du riz frit et que moi j'ai qu'une seule envie, c'est de faire la cuisine. Donc on regarde la fin de cet épisode, on se dit que c'est complètement surréaliste de regarder un épisode de Top Chef à 3h du matin en haut d'un volcan. Et puis finalement, on voit la lumière qui commence à devenir un peu plus bleutée, un peu plus forte. Et donc cerise, ma femme commence à partir un peu plus loin sur le volcan, et moi je commence à prendre des photos. Il y a quelques autres personnes qui arrivent, il y a un groupe de 2-3 Allemands qui me doublent. Moi je commence à prendre des photos, et surtout le brouillard se lève, et là je vois les dunes de sable qui commencent à devenir de plus en plus bleues, de plus en plus saturées, parce que le sable est noir, mais il est tellement brillant, il est tellement scintillant, qu'en fait, pendant les heures qui vont suivre, le sable va prendre la couleur de l'atmosphère. Donc là, on commence à être dans l'or bleu, et bah voilà, j'ai un sable qui est d'un bleu, un bleu clin, avec quelques arbres morts au milieu, et de la brume qui s'engouffre, une brume très mouvante en plus. Je prends des photos en rafale, et chaque photo est différente, parce que la brume n'arrête pas de bouger. C'est vraiment complètement dingue. Enfin, c'est un paysage que j'ai jamais vu auparavant. J'ai jamais vu de dunes bleues. Enfin voilà, c'est complètement fou. Et j'entends une petite musique derrière moi. Et en fait, je me rends compte que les trois Allemands qui étaient là ont sorti un ukulélé. Et il y a la nana qui s'est mise, alors que le soleil était en train de se lever, à jouer et à chanter. Voilà, donc il y a une petite mélodie au ukulélé derrière moi pendant que je prends des photos. Le soleil se lève sur les dunes. Enfin, c'est un moment de grâce infinie. Enfin, ça fait 7 mois qu'on est en train de voyager. Et je me dis, enfin, j'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est hallucinant. Tout est beau partout. Je prends des photos à 360 degrés tout le temps. J'ai l'impression de, enfin, j'aurais dû avoir 5 appareils et tous les enclencher en même temps tellement c'est beau absolument partout. C'est à peine si j'ai besoin de cadrer, parce que de toute façon, je pourrais le cadrer de travers, à l'envers, mal, enfin bref, tout est beau. Je pense que je prends 2000 photos en 3 heures. Les dunes de sable qui étaient très bleues 10 minutes avant, sous d'un coup dorées, parce qu'elles réfléchissent le soleil, et donc ça a complètement changé d'ambiance. La brune s'est complètement levée, et je vois ces sortes de... Je sais pas vraiment si on peut dire des dunes, mais c'est des sortes de petits pics rocheux extrêmement escarpés qui font un décor de dingue. Je vois en face de nous l'autre butte sur laquelle on a dormi, et en fait le brouillard s'est déplacé par là-bas. Donc j'ai l'impression de voir une ville dans les nuages, en fait. C'est la ville dans laquelle on est sorti est complètement au-dessus de la brume. Et donc du coup je ne vois que de la brume et un village qui en dépasse, quoi. Donc c'est absolument hallucinant, je prends des photos pendant 2-3 heures, je sais pas. Et puis finalement, comme le soleil est bien levé, donc on décide de redescendre. Et en fait là, on se rend compte que les touristes commencent à arriver, quoi. Il doit être, je sais pas, peut-être 7 heures du matin. Et nous, on les regarde et on se dit, mais c'est fou parce que ils ont sûrement l'impression de s'être levés très tôt. Et en fait, ils ont tout raté, quoi. Donc on redescend le long du volcan. Et à nouveau, la brume se rapproche du sol. Elle est un peu moins épaisse que quand on est parti. On voit 5-6 mètres devant nous. Et là, c'est à nouveau une ambiance complètement dingue, parce qu'on se rend compte que le sable forme des sortes de petits canyons dans lesquels on croise en fait la population locale, parce que ce parc naturel abrite aussi une ethnie spécifique qui ressemble pas vraiment aux autres Indonésiens d'ailleurs. Moi, ils m'ont plus fait penser à des Péruviens. Ils avaient des grands bonnets en crochet, un peu en pointe, et ils se déplaçaient à cheval. Pareil, les chevaux avaient étaient habillés de trucs assez bariolés. Enfin voilà, c'était complètement dingue. Et donc on marche tous les deux dans ces canyons de sable noir dans la brume, et de temps en temps on croise des types à cheval. C'est complètement hallucinant. On voit à peine l'horizon, et de temps en temps, comme ça, il y a des types qui galopent à côté de nous. On comprend même pas qui ils sont, ce qu'ils font là. Je continue évidemment à prendre des photos. C'est complètement fou. Et finalement, on arrive plus ou moins au pied de la butte où on dormait. Et là, je regarde autour de moi et il commence à faire vraiment beau à ce moment-là. Il doit être 8 ou 9 heures du matin, donc finalement le soleil est assez haut, et je me rends compte qu'on est entouré de grandes montagnes, qui sont vraiment des montagnes pour le coup, qui sont plus de volcans, et qui sont très vertes, et donc voilà, on est derrière nous, il y a ces grands volcans de sable noir, qui fument encore un peu, et devant nous, on a ces grandes montagnes escarpées, toutes vertes, très printanières. Et vraiment, je me dis que on a encore un an de voyage après ça devant nous, mais je sais que on a vécu un moment dont on se rappellera toute notre vie, quoi. À ce moment-là, je sais déjà que c'est un moment qui va définir ce que je considère être la photographie de voyage et de paysage. En fait, je comprends plein de choses. Au-delà du fait d'avoir pris des belles photos, je comprends la préparation que ça demande, la chance inouïe qu'il faut avoir pour vivre ce genre de conditions, parce que en discutant après avec d'autres personnes qui sont allées là-bas, il y en a qui m'ont dit « bah non, moi j'ai juste vu du brouillard et il s'est jamais levé et on n'a jamais vu le soleil », d'autres qui m'ont dit « bah non, il n'y avait pas du tout de brouillard et bah c'est juste du sable noir, quoi, je vois pas de quoi tu parles ». Et voilà, et on s'est vraiment rendu compte du côté complètement exceptionnel et en même temps complètement hors du temps qu'était cette expérience. Et c'est vraiment quelque chose qui a défini notre voyage. C'est de se dire, à ce moment-là, on a vécu un moment extrêmement rare. On était pile au bon endroit et au bon moment. Et je crois que depuis, c'est ce que je cherche dans tous mes voyages. C'est quel est le bon endroit, quel est le bon moment.
Merci beaucoup pour ce récit.
Il n'y a pas de quoi.
Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Il y a eu pas mal d'anecdotes dans ce voyage, forcément, puisqu'il a duré un peu plus d'un an et demi. Mais pour moi, c'est le moment avec lequel je compare tous les autres. Je sais que je devrais pas faire ça, mais il y a plein d'endroits que j'ai visités depuis où je me suis dit « Ah ouais, c'était vraiment bien, mais ça vaut pas Bromo ». C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit « Ah, il n'y a pas de doute, j'ai eu raison d'être là, j'ai eu raison de partir. C'est pour ça que je vis, quoi. C'est pour vivre ce genre de moment-là que je prends les décisions que je prends.
Il y a un côté un peu terrible derrière, à toujours comparer tes futurs voyages maintenant à ce point optimum qu'est Bromo.
Bah, c'est ça, ouais. C'est un peu à double tranchant. Justement, là, dans l'histoire, je raconte que quand je vois l'étoile filante, je fais des vœux pour prendre les meilleures photos que je prendrai jamais, et en fait maintenant ça me fait super peur, parce que je me dis mince, en fait, si ça se trouve je l'ai épuisé un peu trop tôt, ce vœu, et j'ai encore plein d'années de voyages et de photos devant moi, et si ça se trouve maintenant ça va toujours avoir ce goût amer de Ouais, c'était bien, hein, mais ça a pas la saveur de ce moment-là. Mais finalement, c'est aussi parce que c'est le premier moment de grâce et que du coup, se dire qu'en fait, ce genre de moment, ça existe en vrai, c'est fou et que, au bout d'un moment, on a presque l'habitude.
Une question peut-être un peu plus terre à terre et de manière générale, ouais. Avant de voyager, quand tu prépares tes voyages, est-ce que tu as un rituel ?
J'ai pas forcément de rituel. En fait, mon rituel, c'est peut-être de pas avoir de rituel, justement. Pour ce voyage-là, par exemple, on a commencé par vivre 6 mois au Japon. Et en fait, ça devait pas se commencer comme ça. La raison pour laquelle on est parti en Asie avec ma femme, c'est parce que elle travaille dans la couture et que elle devait faire un stage au Vietnam, un stage pour apprendre des techniques traditionnelles pendant 6 mois au Vietnam. Et donc on se préparait un peu pour ça, on avait même commencé à apprendre le vietnamien. Et puis finalement ça s'est pas fait en fait. La bourse ou le stage ou je sais plus trop quoi a fermé cette année-là. Et donc du coup on était parés pour partir en Asie, puis longtemps en plus, on avait rendu nos apparts et tout. Et là on se retrouve un peu coincé, on se dit bon, on est prêt à partir mais on sait plus trop où. Donc on commence à rechercher des annonces pour faire du woofing. Moi, le Japon me donnait très envie, et à un moment, on trouve une annonce, une geisha à Tokyo qui cherche une personne bonne en couture et une personne bonne en photo pour aller vivre chez elle dans sa petite maison en bois à Tokyo. Donc là, on voit ça, on se dit, c'est un signe du destin, faut absolument qu'on fasse ça. Donc on lui envoie un message, et en fait, on n'attend même pas sa réponse. On prend nos billets pour le Japon le jour même, et on se dit qu'elle nous réponde ou pas, de toute façon, on veut y aller, on veut partir. On a trouvé des billets pas trop chers, go. Et voilà, et on est parti un an et demi comme ça. Et finalement, c'est un peu devenu notre habitude de voyage. C'est on a beaucoup pris de billets d'avion la veille pour le lendemain, sans forcément savoir quand est-ce qu'on allait revenir.
Ok, donc tu laisses une belle part d'improvisation lors de la préparation et au jour le jour, au final.
C'est ça. Alors, comme nos voyages, je les considère aussi comme des moments de travail, finalement, puisque je fais de la photo de paysage et de voyage. Une fois sur place, comme finalement on fait pas mal de voyages au long cours, ça permet de nous laisser le temps sur place aussi de faire un peu de recherche. Au début, je faisais pas mal de recherches photographiques sur des sites de photos, genre 500px, Instagram, tout ça. Et en fait, j'ai assez vite arrêté pour deux raisons. La première, c'est que c'est très frustrant parce que finalement, quand on voit des photos sur ces sites-là, on voit des photos de gens qui ont eu beaucoup de chance, qui étaient là pile au bon endroit, au bon moment, qui ont eu une météo de dingue, le matos qu'il fallait, etc. Et finalement, une fois qu'on arrive sur place, on n'a pas forcément cette chance-là. Et en plus de ça, Instagram notamment a fait beaucoup de mal, je trouve, à la photographie de paysages et de voyages, dans le sens où il y a une très grande uniformisation. Et plus de ça, une publicité, en fait, de certains sites. C'est-à-dire que certains endroits qui étaient assez reculés, assez cachés, sont devenus très connus parce que très photogéniques. Et il y a beaucoup d'endroits où on est allé qui étaient complètement détruits par le tourisme de masse. Moi, maintenant, je cherche plus à trouver des infos sur place, mais sans vraiment regarder les photos, quoi. J'essaye de trouver des endroits qui sont un peu moins connus, ou faire des compositions qui sont un peu plus fines, un peu moins tape à l'œil, et qui du coup, peut-être, j'espère, font des bonnes photos sans rameuter la moitié de l'Europe sur place.
Tu mentionnais dans ton récit avoir un petit peu comparé ton expérience de bromo avec des amis. Et tu disais à l'instant qu'il y avait une certaine part de chance. Ouais. Est-ce que tu considères qu'il y a une part de réussite et de chance dans le voyage ?
Bah, là encore, je pense que la réponse est oui, mais parce que en fait, le voyage étant aussi un travail, j'ai un but en fait quand je voyage. Mais d'ailleurs, je pense que c'est important, d'une certaine manière, de savoir pourquoi on voyage. Je pense que l'errance, c'est une bonne idée, en principe, mais que ça tient pas forcément dans le voyage à long cours. En tout cas, je sais que je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir un peu un sens quand je voyage, parce que sinon, finalement, on est juste dans la consommation des pays et du voyage. Moi, je préfère savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, et du coup réfléchir à l'impact. Je voyage, mais je suis là pour telle raison, et donc du coup, je fais en sorte d'être raisonnable dans mon voyage aussi.
Du fait de ton métier de photographe, bon, je suppose que tu documentes tes voyages via des photos. Mis à part ça, est-ce que tu racontes tes voyages par d'autres moyens ou d'autres médias ?
J'aurais bien voulu. Quand j'étais en Asie, j'ai écrit quelques articles sur mon site internet, en fait mon portfolio, un blog attaché, donc j'ai écrit quelque chose dessus. Ensuite, on est parti aux États-Unis pendant plusieurs mois. On a fait une grande boucle dans l'Ouest américain. Là, j'ai essayé les stories sur Instagram parce que j'avais du réseau et du coup j'ai fait un peu ça, mais finalement bon, c'était un peu contraignant et en même temps ça permettait de donner des nouvelles à des gens un peu en direct. Non, ce que j'ai trouvé par contre de très agréable, c'est d'écrire un livre après coup. C'est en fait ce qui m'a donné l'idée, c'est quand j'ai lu la biographie de Nicolas Bouvier, qui est donc un écrivain voyageur, dont j'ai lu tous les livres et qui est à la base de ma passion pour le voyage, comme beaucoup de voyageurs, je pense. Quand je lisais ces livres, je me disais ouais, c'est dingue, on a l'impression qu'il écrit les scènes pendant qu'il est en train de les vivre. Et en fait, pas du tout. Il y a des choses qu'il a écrites 40 ans après avoir fait le voyage. Je trouvais ça complètement dingue. Mais finalement, je trouve que avoir un certain recul sur ce qu'on a vécu, c'est assez intéressant. Donc finalement, pour le voyage en Asie, j'ai attendu plus d'un an pour finalement écrire un livre qui est moitié photo et moitié texte, où je me disais « Ok, j'ai une quarantaine d'anecdotes qui sont liées à des rencontres, soit avec des personnes, soit avec des lieux, qui peuvent être intéressants à raconter, tout en donnant à la fois l'impression que j'ai eue à ce moment-là et ce que j'en tire maintenant après être rentré, après avoir eu le temps de digérer tout ça. » Donc voilà, je pense que les livres après coup, je pense que c'est une bonne idée.
Justement, tu mentionnais les rencontres. Toi, comment tu considères les rencontres que tu peux faire en voyage ? Est-ce que tu considères ces rencontres comme éphémères ou est-ce que tu vas avoir tendance à garder contact avec les personnes rencontrées sur place ?
Alors en fait, moi je voyage pas particulièrement pour faire des rencontres en fait. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais il m'est arrivé de rencontrer des gens un peu dans des auberges de jeunesse et des choses comme ça. Mais finalement, comme j'essaye d'aller dans des endroits assez reculés, et comme je peux pas apprendre la langue de tous les pays où je vais, d'autant plus que la plupart ont pas mal de dialectes assez différents, il m'est arrivé de faire quelques rencontres, mais moi je considère plus important les rencontres avec des lieux que des rencontres avec des gens. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus mystique parfois à trouver un lieu où on est seul. Enfin, j'ai un souvenir d'un désert de sable blanc. J'adore les déserts, si jamais on s'en rend pas compte. Un grand désert de sable blanc aux États-Unis où je me suis perdu pendant 4 jours. Et j'avais vraiment l'impression d'être complètement seul au milieu de tout ça. Mais voilà, si je voulais être vraiment cliché, je dirais que finalement, dans un voyage, on se rend compte surtout soi-même.
Pour se parler du retour, toi, est-ce que tu es atteint de le syndrome post-voyage, le blues du retour? Et si c'est le cas, comment tu le soignes?
En fait, comme mes voyages sont assez longs, généralement, quand je rentre, je suis plutôt content de rentrer. Je rentre un peu fatigué, généralement. C'est assez physique, hein, mine de rien, donc on se pousse pas mal à bout. En plus, en France, on mange très bien, donc généralement c'est l'occasion de manger plein de bonnes choses qu'on n'a pas mangé ces derniers mois, donc ça c'est cool. Non, après effectivement, il y a quand même un blues du voyage qui revient assez vite dans le mois qui suit l'arrivée. On commence à regarder un peu la map monde, à se demander où est-ce qu'on ira, où est-ce que j'irai prendre des photos. Après, comme je prends beaucoup de photos, en fait, il y a un après voyage qui est assez important mine de rien. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était 89 jours et j'ai pris 50 000 photos. Donc ça prend du temps aussi hein, de trier, de retoucher, de digérer 50 000 photos, d'en faire un livre après. Donc en fait, le fait d'avoir un projet pendant le voyage, ça permet aussi de le faire durer après et de rester un peu dans cette énergie-là. Donc ça, je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant.
Justement, pour se parler projets et futurs, quels sont tes futurs projets, qu'ils soient projets de photos ou projets de voyage?
Alors, donc je suis exposé dans une galerie à Paris qui s'appelle Paris est une photo. Et donc, régulièrement, il faut que je ramène des nouvelles photos. Donc là, on vient de faire une exposition sur l'Ouest américain. Et là, je repars dans quelques mois en Islande. Ça, je suis assez excité parce que c'est un pays qui me fait envie depuis très très longtemps. Donc une grande série de paysages en Islande, et je repars au Japon pour faire une exposition là-bas et aussi pour faire des recherches sur du papier photographique et tout ça. Donc voilà, je repars au Japon en avril pour une expo et pour finir une série de photos que j'avais commencé la première fois autour des estampes de Kawase Asui, qui est un de mes artistes japonais préférés.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc, est-ce que tu as une dernière anecdote à partager, une recommandation, un proverbe? C'est à toi.
Alors, j'aurais du mal à le citer de tête. J'aime énormément le dernier paragraphe de L'usage du monde de Nicolas Bouvier, que j'ai pas du tout compris la première fois que je l'ai lu, parce qu'en fait, j'ai commencé par le dernier paragraphe, comme je fais souvent avec les bouquins. Et je me disais, bof, ça a pas vraiment de sens quand même. Puis après, j'ai lu tout le livre. Et en fait, après avoir voyagé et après avoir relu L'usage du monde, j'ai profondément compris ce qu'il voulait dire. Donc voilà, à tous ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le, voyagez, relisez-le et sentez ces phrases résonner en vous.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. J'ai bourlingué.